OK, alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Job, chapitre 37. Job, chapitre 37. Moi, dans ma version, à moi... c'est 38, excusez-moi. J'ai marqué 37, mais c'est 38. C'est bizarre parce que... Dans ma version, à moi, dans la version Louis II, 1910, ici... on a le chapitre 38 qui finit au verset 38. Mais quand je me servais de la... Parce que moi, je prends mes versets, quand je veux copier un verset, j'ai un programme informatique. Et lui, quand je choisis la version Louis II, il me donne 41 versets. Alors, ce matin, je vous ai remis une feuille qui vous explique un petit peu d'où ça vient, ces différences-là. Alors, ce matin, nous autres, on va étudier la version... chapitre 38, mais aller jusqu'au verset 3. Autrement dit, dans la version qu'il y a sur Internet, que j'ai dans mon programme informatique, le chapitre 38 se rend jusqu'à... Il finit, autrement dit, à 41. Autrement dit, il fait 39... Au lieu d'être 39.1, c'est 39, 40, 41. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Autrement dit, les trois premiers versets du chapitre 39... font partie du chapitre 38, dépendamment des versions dont on se sert. Alors, ce matin, on va étudier la version avec 41 versets. Je vous ai donné la feuille, ça peut vous aider à comprendre. Moi, je faisais longtemps que je cherchais l'information, j'ai trouvé ça sur Internet cette semaine. Comment ça se fait qu'il y a des versions qui finissent au verset 41? Comment ça se fait qu'il y a des versions qui finissent au verset 38? Je vous ai donné la feuille, ceux qui ne l'ont pas, il fallait la demander. C'est intéressant de savoir ça. Autrement dit, en gros, c'est... En 1227, il y a un évêque anglais qui s'appelait Langton qui a divisé la Bible en chapitres. Avant ça, ça n'existait pas. Donc, il a pris la Bible, puis il a dit, bon, OK, Isaïe, on va diviser en chapitres, il a divisé ça en 66 chapitres. Ça, cette méthode-là, elle a duré de 1227 jusqu'à 1551. À 1551, là, il y a un Français qui a décidé de prendre les chapitres et les diviser en versets, en 1551. Alors, certaines versions ont utilisé cette façon de diviser le texte-là. Et il y a un autre monsieur qui s'appelait Attiars, qui était un Hollandais. Et lui, le Hollandais, il a décidé de suivre la Bible hébreu. Puis chaque fois qu'il y avait un alinéa, ça veut dire lorsqu'il y a un espace de blanc, de suivre ça pour numéroter. Alors, ça faisait deux façons de numéroter différentes. Certaines versions ont choisi la méthode de Langton et l'autre, là, en même temps, et d'autres ont choisi Attiars. Alors, c'est ce qui explique nos différences. Ça faisait longtemps, je voulais savoir ça, je l'ai trouvé cette semaine. C'est pas une grosse affaire, mais c'est important de savoir. Moi, je me suis toujours posé la question, veux-tu bien me dire comment ça se fait que dans les Bibles anglaises, il y a des versets 41, puis dans la Bible française, il n'y en a pas. Alors, tout est là. Alors, on va commencer notre étude de Job, chapitre 38, versets 1 à 41. Alors, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, s'interrin comme un homme vaillant? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité, c'est l'ange. Quand je lui imposai ma loi, et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, et tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme? Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimas du ciel pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils « nous voici »? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. On va aller jusqu'au verset 3 du chapitre 39. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Alors, on va étudier ce chapitre-là aujourd'hui. Je dois vous dire que j'ai été profondément béni en préparant le texte. J'ai fouillé beaucoup pour essayer d'expliquer certains passages. Et c'est extrêmement intéressant. Dieu nous montre beaucoup de choses concernant lui-même. Alors, j'ai intitulé le passage d'aujourd'hui qu'on étudie « Le Seigneur répond à Job en l'interrogeant ». C'est une drôle. Job pose des questions. Puis la façon de répondre de Dieu, c'est en lui adressant des questions. Alors on se dit, il répond pas vraiment. C'est vraiment le cas, c'est en posant des questions qu'il va remettre son serviteur dans un état d'humilité pour qu'il comprenne qui est Dieu et qui est lui. Alors j'ai divisé le texte en trois parties. Il l'interroge sur la création, la mer et la lumière. Dans les versets 1 à 15. Ensuite, le Seigneur l'interroge sur les mystères de la création, versets 16 à 30. Et, troisième idée, il l'interroge sur ce qu'on pourrait appeler les quatre mondes. On va voir que Dieu part du ciel, ensuite il descend dans le firmament, il descend au niveau de l'homme, ensuite il descend au niveau des bêtes. Alors, ça descend comme ça dans cette idée-là. Alors, les versets 31-41, il interroge Job sur les quatre mondes. J'utilise plusieurs volumes pour préparer la leçon. J'en ai un en français. Il s'appelle le livre de Job, tome 2, il y a deux tomes, il est en deux tomes. Il parle, l'auteur français, Jules Marcel Nicole, qui a publié ce livre-là en 1987 aux éditions Edifac. Alors, dans le début, au début du chapitre 38, il fait ce que moi j'appelle une présentation magistrale de l'ensemble de la réponse de Dieu à Job. Et par la même occasion à ses amis. Alors, je l'ai trouvée tellement bonne que je ne suis pas capable, très, très certainement pas capable de faire mieux que lui. Alors, on va lire ce que lui nous dit. Et c'est très intéressant de voir comment il a vu l'ensemble des chapitres 38, toute la réponse de Dieu, autrement dit, par rapport aux questions que Job a posées. Il m'a fait voir des choses que je n'avais jamais vues. Il dit, si tu comptes les questions que Dieu fait à Job, ce sont des réponses à des questions que Job se posait. Et si tu comptes les questions de Job, et là, il les énumère, on va regarder ça un petit peu, mais je trouve ça extraordinaire. Je n'avais jamais vu ça. À quelque part, il dit, regarde qu'est-ce que Job a posé comme question, et regarde, et compare avec les questions de Dieu, et dans le fond, les questions de Dieu deviennent des réponses aux questions de Job. Mais qui a déjà lu le livre de Job en remarquant ça? Pas moi, en tout cas. Alors, je vais vous lire ce que lui dit pour présenter ce chapitre-là. Mais c'est-à-dire cette section-là, chapitre 38 à 42. Il dit, « Après la longue attente vaine, voici enfin l'intervention divine si ardemment souhaitée par Job lui-même et aussi par ses amis. Puisque c'est une réponse, il ne sera pas inutile de rappeler quelles étaient les questions posées par le patriarche. Nous ne les mentionnerons pas toutes, car il y en a une bonne soixantaine, mais on peut les regrouper en deux catégories. » Donc, il nous fait remarquer que si on recule dans les 37 chapitres précédents, Job, dans tout cela, il a posé des questions à plusieurs reprises. Semble-t-il qu'il y en a au moins 60. J'ai jamais fait Mais ça nous prouve une chose. Peu importe le nombre de fois qu'on a lu le livre de Job, peu le nombre de fois qu'on l'a étudié, il y a toujours des aspects qu'on n'a pas vu et que certains auteurs nous font remarquer et que c'est souvent extrêmement bénissant de voir ça. Hein, j'ai jamais vu ça. Pourtant, c'est là. C'est juste qu'ils ne sont plus, ils remarquent plus. Alors, on va continuer dans ce qu'il dit. Il dit qu'il y a une bonne soixantaine de questions de la part du patriarche et qui sont divisées en deux catégories. Alors, il dit, d'abord, celles qui sont personnelles. Donc, il y a des questions qui s'adressaient surtout à sa personne. Alors, il dit, on en donne quelques exemples. « Pourquoi ne suis-je pas mis à mort dans les entrailles de ma mère? » 3:11. « Qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Que n'enlèves-tu mon crime et ne me laisses-tu pas passer ma faute? Te paraît-il bien d'exercer l'oppression et de repousser l'ouvrage de tes mains? Fais-moi connaître mon crime et mon péché. » Pourquoi caches-tu ta face et me prends-tu pour ton ennemi? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Que le Tout-Puissant me réponde. Moi, je trouve qu'en soi, là, quelqu'un qui prendrait le temps d'aller chercher toutes les questions de Job, qui sont personnelles, il verrait comment Dieu répond dans sa réponse. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que Dieu ne dit pas « Voici la réponse que je donne à telle question. » Mais on peut faire le lien. Et ça, je trouve ça très intéressant. Après ça, il dit « De plus, à partir de son cas personnel, Job interroge sur le gouvernement divin. » Donc, il s'interroge « Pourquoi tu me fais ci? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu permets ci? Pourquoi tu permets ça? » Mais aussi, il interroge Dieu sur la manière dont il gouverne la terre, la vie des hommes, la vie des nations et tout ça. Alors, il demande dans des questions, « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi vieillissent-ils et même reprennent-ils des forces? Pourquoi des temps sont-ils mis en réserve de la part du Tout-Puissant et pourquoi celui qui le connaît ne voit-il pas ses jours? » Alors, on pourrait allonger la liste des deux côtés, à la fois personnelle et à la fois les questions de Job sur le gouvernement humain. Alors, il dit, ces questions sont celles qui, de tout temps, ont torturé ceux qui souffrent, puisque le Seigneur prenait la peine de répondre, nous nous serions attendus à ce qu'il donne les explications demandées. Certes, pour que l'épreuve de Job soit tout à fait concluante, celui-ci devait l'accepter sans en connaître le motif. Autrement dit, Job, s'il veut vraiment profiter de son épreuve, fallait qu'il l'accepte sans qu'il comprenne pourquoi. Parce que Dieu lui a pas dit, Satan est venu me voir, Satan m'a demandé, et je te faisais assez confiance pour laisser Satan intervenir dans ta vie en agissant de telle et telle façon. Alors il dit, s'il avait su qu'il souffrait pour la gloire de l'Éternel, cela aurait été un stimulant pour lui. Bien sûr. Si le Seigneur y aurait dit, ben c'est pour ma gloire que j'ai permis ça, il s'arrêtait mais il allumait pas, il comprenait pas la raison. Alors, il fallait, pour réfuter les insinuations de l'adversaire, qu'en pleine incertitude et dans une atmosphère de mystère opaque, il reste fidèle à Dieu d'une manière vraiment désintéressée. Quel était l'argument de Satan? Enlève-lui ses biens, enlève-lui sa santé, enlève-lui ceci, enlève-lui ça, et tu verras qu'il ne te servira, il ne te servira pas. Alors, l'argument fondamental, c'était que Dieu voulait démontrer que Job, même en tenant compte de l'ensemble des choses que Dieu permettait qu'il lui arrive, il demeurait vraiment, il servait Dieu d'une façon désintéressée. Autrement dit, si Dieu t'enlève toutes tes bénédictions, si Dieu t'enlève ta famille, si Dieu t'enlève ta maison, si Dieu t'enlève tes biens, si Dieu t'enlève la reconnaissance que tu as par les autres êtres humains, est-ce que tu vas l'élever encore? C'est ça que Satan avait mis en jeu. Maintenant, il continue en disant, « Mais maintenant qu'il a fait ses preuves dans les conditions les plus dures, il aurait été normal que Dieu lui donne les éclaircissements dont il avait besoin. Or, dans les deux réponses assez longues que le Seigneur prononce, il n'y a pas un traître mot, ni sur les épreuves individuelles de Job, ni sur celles des malheureux en général. Au lieu de cela, l'Éternel parle de la fondation du monde, de la terre, des limites de la mer, du lever de l'aurore, des profondeurs de l'abîme, de la neige, de la grêle, de la pluie, de la glace, des constellations et toute une série d'animaux divers, et avec une insistance surprenante de deux d'entre eux qui ne sont pas clairement sympathiques, l'hippopotame et le crocodile. Alors maintenant, on va voir qu'il va amener ces arguments-là. Alors, la réponse de Dieu, à première vue, passe totalement à côté, elle a l'air de passer à côté des questions que Job pose. Pourtant, c'est assurément la bonne réponse. D'abord, parce que c'est Dieu qui l'a prononcée, or, ce qu'il dit est toujours adéquat. Mais aussi parce que Job se déclare satisfait. On l'a vu à la fin, quand on arrive à la fin, Job se déclare satisfait. Lui qui avait si violemment protesté contre les accusations de ses trois premiers amis et qui avait opposé un silence un peu maussade aux explications d'Élihu, baisse pavillon. Il dit « Je suis peu de choses. » « Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. » Ça, c'est la fin. Alors, il dit, « J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. J'ai fait part, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la cendre et sur la poussière. » Autrement dit, la façon de répondre de Dieu, c'est ça qu'il avait besoin. Parce que lui-même en arrive à la conclusion, et ça, je trouve ça très important, « J'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. » N'est-ce pas la façon dont on devrait accueillir les circonstances providentielles que Dieu envoie dans nos vies? Après ça, il dit, « L'Éternel a répondu du milieu de la tempête, peut-être parmi les éclairs et le tonnerre d'un orage décrit par Élihu, en tout cas au sein d'une situation orageuse pour Job. Mais désormais, le calme est revenu et l'atmosphère s'est éclaircie. Comment expliquer la chose? Le Seigneur apporte à son serviteur une glorieuse révélation de sa puissance, de sa sagesse et de sa sollicitude pour ses créatures, même les moins attrayantes. Quand tu parles du crocodile, on ne peut pas dire qu'en général, on est en admiration devant ça. Alors, il dit, le Seigneur est en train de démontrer sa sollicitude même envers les bêtes qui, à nos yeux, peuvent sembler, nous, on ne trouve pas grand-chose, des fois, d'intéressant, à part qu'ils nous inspirent de la crainte. Il dit, comment expliquer la chose? Le Seigneur apporte en son serviteur, justement, la révélation de sa puissance et de sa sagesse et de sa sollicitude. Or, voilà la certitude dont notre cœur angoissé a besoin avant tout quand nous sommes en peine, beaucoup plus que de savants raisonnements sur les causes et les buts de nos épreuves. Autrement dit, Dieu, quand il révèle sa grandeur, quand il révèle qui il est, on a plus besoin de se faire rappeler ça que de se faire répondre aux questions qu'on aimerait bien lui poser, mais qu'il dit qu'il ne nous répondra pas. Alors, on continue. Lorsqu'un automobiliste est victime d'un grave accident de voiture, il est certes important pour lui de savoir qui est le chauffeur qui l'a tamponné, quels témoins peuvent déterminer les responsabilités, comment les assurances vont l'indemniser. Mais le plus urgent, c'est qu'une ambulance soit vite amenée sur les lieux pour le transporter dans un hôpital et qu'il soit confié aux mains d'un bon chirurgien qui lui permettra de se tirer d'affaire. Un chirurgien, si qualifié soit-il, est un homme au pouvoir limité et son intervention n'est pas toujours efficace. Mais un Dieu tout-puissant, parfaitement sage et plein de bonté mène nécessairement tout à bonne fin. Aussi, cette révélation éclatante était-elle la vraie réponse au cri du croyant affligé. Elle lui apportait, après tous ses tourments, l'apaisement désiré. C'est bizarre. Qu'est-ce qui apaise Job? C'est la révélation de la grandeur de Dieu. Et non pas une réponse à l'ensemble de ses 60 questions. Il répond, mais il répond d'une façon un petit peu inattendue. On peut noter que la grandeur divine se détache sur un arrière-plan qui est celui de la petitesse, de l'ignorance et de la faiblesse humaine. Dieu ne prodigue pas son serviteur des consolations lénifiantes. Il l'appelle avec vigueur, il l'interpelle avec vigueur comme un partenaire viril et responsable. Son exposé a l'allure d'un interrogatoire avec une soixantaine de questions, à peu près autant que Job en avait posé. Bizarre, ça, de faire le lien entre les deux, là. L'homme impuissant et ignorant serait bien incapable de donner une réponse adéquate. Nos universitaires et nos spécialistes du 20e siècle seraient bien aussi embarrassés que Job et ses contemporains à cet égard. Ils ont pu observer plus minutieusement les données de la cosmographie, de la météorologie et de la zoologie, mais ils n'en savent pas davantage sur les raisons pour lesquelles l'univers est constitué de telle ou de telle façon. La seule attitude normale en face des mystères de l'action divine, c'est l'humilité. C'est la leçon que Job a su apprendre en recevant la révélation que Dieu lui accordait. C'est celle que nous devons, à notre tour, assimiler toujours à nouveau. En fait, elle constitue le meilleur antidote à nos angoisses et à nos perplexités en nous incitant à la confiance en celui qui nous dépasse infiniment. On peut se demander comment le Seigneur a parlé. A-t-il fait entendre des sons audibles, comme lorsqu'il s'est révélé au jeune Samuel? Job a-t-il ressenti une voix intérieure? Au fond, peu importe. Dieu n'est pas à court de moyens. Il a parlé de diverses manières, comme on le lit dans Hébreux 1:1. L'essentiel, c'est qu'il n'est pas resté silencieux, et le contenu des discours en garantit l'origine divine. Pour donner une réponse si imprévue et en même temps si adéquate, il fallait la sagesse du Très-Haut. Toute l'Écriture est divinement inspirée, mais dans certaines pages, cette inspiration éclate d'une façon plus fulgurante que dans d'autres, et les quatre derniers chapitres que nous abordons sont parmi les plus visiblement inspirés de toute la Bible. Remarquons en passant leur grande beauté littéraire. Le Créateur fait admirer à sa créature privilégiée, l'homme, toute la magnificence de la création. Il ne s'agit pas de prôner une religion naturelle basée sur la contemplation de l'univers et qui permettrait qu'on se passe de la révélation biblique. Job pouvait spontanément contempler les phénomènes du monde, mais pour en tirer profit, il avait besoin d'une instruction directe et même d'une apparition du Seigneur. Cependant, l'insuffisance notoire de la religion naturelle ne doit pas nous empêcher de reconnaître la réalité de la révélation naturelles, plusieurs fois attestées dans l'Écriture. Éclairées par la Bible, nous pouvons et devons discerner l'action de Dieu dans sa création. Plusieurs textes nous y invitent, par exemple les psaumes 29, 104, 148 et d'autres. Ici, ce thème s'est développé avec une majesté incomparable. Le nom, l'Éternel, le nom sacré du tétragramme, là, qu'on appelle il prononce Yahweh, il y en a d'autres qui le prononcent Jéhovah. Alors, il est courant dans le prologue et l'épilogue, il est presque inusité dans le dialogue entre Job et ses amis. Il paraît ici d'une manière régulière. Autrement dit, dans les autres chapitres, avant puis après, le mot Yahweh n'est pas très présent, Yahvé ou Jéhovah n'est pas très présent, mais dans la section 38 à 42, le nom de Yahweh est très présent. Et Jéhovah, c'est le Dieu de l'Alliance en relation avec son peuple. Alors, il est en train de parler à Job, mais dans sa qualité de Dieu de l'Alliance, parce que Job fait partie de l'Alliance. Alors, en réalité, il y a deux discours du Seigneur, chaque fois avec une réaction de Job. La première réponse, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui, la deuxième réponse de Dieu. Ensuite, il va y avoir toute la division du livre qui nous donne un genre de plan de cette section-là. C'est un peu long, mais moi, je calcule que c'est important de voir quelque chose là-dedans. Job a posé des questions, Dieu a répondu par des questions, et Job a rappelé, « Ben là, je te pose des questions, puis tu ne me réponds pas. » Puis pas être satisfait. Au contraire, il s'est rendu compte par l'ensemble des questions que Dieu lui a posées qu'il était un homme ignorant, limité, incapable de saisir les choses qui le dépassaient de beaucoup. Il dit lui-même, c'est ses propres paroles, « Je me suis occupé de choses qui me dépassent. » Alors, quand il nous arrive des malheurs, il nous arrive des épreuves, on est porté à faire exactement la même chose que Job. Veux-tu bien me dire pourquoi Dieu m'a envoyé ça? Avais-tu besoin de ça? Moi, c'était ainsi. Avais-tu besoin de ça? On passe notre temps à critiquer et on ne se rend pas compte que toutes ces choses-là sont dirigées par la main personnelle de Dieu et Dieu a un plan pour chacun de nous et il envoie son plan, il envoie ses circonstances et il y a toujours un but de sagesse à l'intérieur de ça. Des fois, on vit des choses, de la maladie, ça peut être toutes sortes de choses qui nous arrivent. Et là, on peut se poser la question, « Veux-tu bien me dire pourquoi le Dieu m'a envoyé ça? Pourtant, je marche droite, c'est un site, pourtant, je fais ci, pourtant, je fais ça. » La Bible nous enseigne, et plus particulièrement le livre de Job, de ne pas critiquer contre les voies de Dieu parce que toutes ces voies, toutes ces façons de fonctionner, toutes ces voies providentielles dans nos vies, et c'est très large là, comme sujet, là. À tous les jours, il arrive des choses qui nous déplaisent. À tous les jours, il arrive toutes sortes d'événements qui peuvent nous déranger, mais pas à peu près, des fois, ça nous dérange énormément. Et la Bible nous apprend que c'est Dieu qui a permis cela. Quand on interprète ça tout croche, on fait exactement la même chose que Job. On ne comprend pas la bonté et la sagesse de Dieu à l'intérieur de ça. Alors, on va regarder la première partie, versets 1 à 15. Alors, le Seigneur interroge lui-même Job sur la création, sur la mer et sur la lumière. C'est ça qu'on avait dit qui étaient les premiers points. Alors, il va le faire par quel moyen? Il va le faire par son apparition à Job. Alors, ça dit 38, versets 1 à 3, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins? » Le mot « dessein », c'est vraiment mes décrets, mes décisions concernant vos vies. Quand on questionne les voies de Dieu dans le déroulement de nos vies, c'est en plein exactement ce qu'on fait. On vient obscurcir les desseins de Dieu. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins? » Et là, il dit une phrase qui devrait nous humilier beaucoup, « Par des discours sans intelligence. » Quand on veut se mêler des choses divines, on parle rarement avec intelligence. Après ça, il dit, dans le verset 3, « S'interrin comme un vaillant homme, Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Quelle ironie! Le Seigneur utilise l'ironie pour remettre son serviteur à sa place. Saint-Airain comme un vaillant homme. Alors, autrement dit, il est en train de dire, c'est comme prépare-toi à la guerre. Après ça, il dit, je vais t'interroger, puis par tes réponses, tu vas m'instruire. Il y a quelque chose de vraiment, là, l'ironie est très forte, là. Alors, le moment de son apparition, le timing de Dieu est parfait. Après le discours d'Élie et la préparation du cœur de son serviteur Job, Dieu est intervenu là, à un moment précis, après que tous les amis ont donné leur théorie, après que Job a tout posé ses questions qui frisaient parfois, c'était pas trop brillant, des fois c'est certaines de ses observations. Donc son cœur a été préparé par les trois amis, par l'intervention d'Élie, et le timing, quand on parle de timing, faut que tu dises les choses au bon moment, et le Seigneur ici intervient au bon moment dans la vie de Job. Et il le fait de façon solennelle, au milieu d'une tempête. C'est dur à imaginer qu'est-ce qui s'est passé vraiment, mais Job, Dieu apparaît au milieu d'une tempête. Alors, les tempêtes sont souvent utilisées par le Seigneur dans la Bible pour souligner l'importance d'un événement. On est en train d'étudier la promulgation du Décalogue. Quand le Seigneur a fait la promulgation du Décalogue, qu'est-ce qui est arrivé? Une tempête. Et souvent, les tempêtes dans les Écritures, c'est une façon pour Dieu de démontrer que qu'est-ce qu'il est en train d'amener est solennel. Solennel, ça veut dire « Écoute, mon enfant, ouvre tes oreilles, sois attentif à ce que je vais te déclarer. » Alors, il l'a fait à un autre moment aussi, la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Un vent violent. Ça parle d'un vent violent, c'est une tempête, ça. Et le don du Saint-Esprit a été fait dans une tempête de vent. Ça devait être terriblement épeurant, là. Parce que le vent, quand il vraiment il est très, très, très fort, ça fait peur. Et on pourra prendre probablement d'autres exemples. Alors, la solennité de son apparition a pour but de manifester sa majesté et d'expliquer que les choses qu'il est en train de dire sont solennelles et concernent sa toute-puissance, concernent aussi la profondeur de son déplaisir, pas de son plaisir. Autrement dit, j'interviens un moment pour vous poser question, pour que tu cesses ce que tu es en train de faire. Et là, il fait une réprimande dans le verset 2. Alors vraiment, cette réprimande-là, ça exprime le mécontentement du Seigneur face à l'audacité, la présomption et la folie de celui qui ose questionner ses voies providentielles. Est-ce que ça nous enseigne à nous, ça? Si ça dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Quand Dieu permet des circonstances dans nos vies qu'on a de la difficulté à comprendre, qu'on a de la difficulté à accepter, on remet Dieu en question, on peut remettre sa bonté en question, sa miséricorde en question, sa sainteté en question, et bien d'autres choses. On obscurcit les desseins de Dieu, on pêche de la même façon que Job péchait et ses trois amis ont péché en disant, en posant certaines questions qui étaient malhabiles, et en formulant des objections ou en accusant Dieu de choses qui étaient vraiment indignes. Alors, le Seigneur reproche à Job son langage irrévérencieux et rempli d'ignorance. Job a obscurci les desseins de Dieu en exprimant des opinions sur les procédures de Dieu qui assombrissaient leur parfaite sagesse et luminosité. Qu'on a de la misère avec ça. À comprendre que tout ce que Dieu envoie dans nos vies, c'est plein de sagesse, c'est plein de lumière, la luminosité. Alors, il contribuait, par ses questions, par ses observations, à jeter davantage d'ombre que de lumière par ses vaines discussions et ses raisonnements à courte vue. Nous, on voit, quand on dit quelqu'un a la vue courte, on dit souvent il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est une expression. Ça veut dire qu'il ne pense pas avant d'agir. Il fait des choses, puis il réfléchit après. Alors, dans les observations des amis de Job et de Job lui-même, et même d'Éliu, il y avait des observations comme ça, des raisonnements à courte vue. Dieu ne voit pas notre vie de la même manière qu'on la voit nous. Lui, il voit notre vie complètement déroulée. À ses yeux, à lui, tout ce qui va m'arriver demain, après-demain, jusqu'à la date de mon décès, les circonstances de mon décès, tout ça pour lui, c'est clair, c'est évident. Alors, avec nos prétendues lumières, on risque de tout enténébrer. Et les exigences qui sont liées à son apparition dans le verset 3, Job se voit commander de prendre une attitude virile, saint-terrain, comme un vaillant homme. Dieu va déverser une avalanche de questions qui vont pousser Job à réfléchir et à prendre position. L'ordre est vraiment ironique quand il nous dit « Je t'interrogerai, tu m'instruiras ». Le Seigneur a le sens de l'humour. On voit son sens de l'humour ici. Il dit à une créature, lui qui est le Tout-Puissant, qui est l'Omniscient, « Je vais te poser des questions, là. Tu me répondras, ça va m'instruire, ça. » C'est vraiment drôle, quasiment se rouler par terre. Alors, ce défi, que quand Dieu lui dit je vais te poser des questions, tu m'instruiras, ça a un but, de lui démontrer son ignorance et de lui montrer son omnipotence et son omniscience à lui et la raison pour laquelle il fait toutes choses parfaitement. Alors, on a parlé, il fait le moyen, il va interroger Job sur la création de la mer et la lumière par le moyen de son apparition. La deuxième chose, par le moyen de l'interrogation. On dit qu'on est rendu à la section dans Job où Dieu répond, puis il répond en posant des questions. Si vous posez des questions à quelqu'un, là, vous, puis la personne vous retourne des questions, vous allez dire « Hey, reviens-en, hein, tombe ses deux pieds, c'est une question que tu as posée, c'est une réponse que je veux. » Alors Dieu lui répond par des questions. C'est très significatif. Alors, on commence par les questions sur la création. Alors, la création du monde. Imaginez-vous, il pose à un homme des questions sur la manière dont lui a créé tout le monde. Il dit, « Où étais-tu quand je fondais la terre? » Et misère, ça a dû dire à Job, a dû dire, « Oh, je n'étais pas là. » Après ça, il dit, « Dis-le. » Si tu as de l'intelligence. La première question était déjà, à te remettre dans ton trou, comme on dit. Prends ton trou. Et après ça, il dit, qui en a fixé les dimensions? Même aujourd'hui, en 2015, on ne connaît pas encore les dimensions de l'univers. On a toutes sortes de théories dans l'astronomie, mais les dimensions exactes, on est toujours en train de les repousser. On est en 2015. Ça fait longtemps là, que toutes ces affaires-là se sont passées dans le temps. Alors, si les savants modernes, avec tous leurs outils, toutes leurs connaissances accumulées, ne sont pas capables de répondre à cette question-là, imaginez-vous, Job. Si tu connais-tu les dimensions de l'univers? Moi, j'avoue que mon dingue ne me le demande pas. Il faut dire, je ne sais pas. Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans le verset 4? Que la création est une œuvre exclusivement divine. Où t'es-tu quand j'ai fondé la terre? C'est Dieu qui a fait ces choses-là. C'est pas l'homme. Après ça, il dit... dans le verset 5 et 6, ça nous montre que Dieu est le grand architecte et qu'il a des plans immuables et parfaits. Alors, quand il parle de mesures et les assises de la création, Dieu est plein de sagesse et il dispose d'une science infaillible et aussi de son omniscience. Tout est d'une solidité et d'une perfection absolue. Le Seigneur semble dire à Job, « Réponds-moi, puisque tu es si savant. » L'édifice de la création, autant que l'édifice de nos vies, on la reprend. L'édifice de la création, la question que Dieu vient de poser à Job, et l'édifice de nos vies, Parce que notre vie, elle commence dans le ventre de nos mères, et même Dieu dit que lui a commencé bien avant ça, commençait dans l'éternité. On existait dans son esprit à lui avant même que l'union se fasse dans notre père et notre mère. Et à partir du premier jour, du premier instant, il y a l'éternité, à partir du premier instant où ça c'est temporel jusqu'à la fin, Dieu sait absolument tout sur nous et tous les événements pour construire notre vie, comme pour construire l'univers, sont parfaitement sages, complètement bien établis. Alors ça, c'est bien important de saisir ça. Alors, l'édifice de la création, autant que l'édifice de nos vies, est l'œuvre du Dieu omnipotent. Vous savez tout ce que ça veut dire, toute puissance absolue. Omniscient, qui sait tout, depuis le début jusqu'à la fin. Omniprésent, est-ce qu'il y a une journée ou un instant dans nos vies où Dieu n'est pas là où nous sommes? Non, il est toujours là. Et sage, quelqu'un qui fait un plan sage, c'est un plan qui n'a pas d'erreur dedans. Fait que nous, des fois, quand on est en train de ruer d'un brancard, c'est comme si on était en train de dire à Dieu, « Mais d'après moi, tu fais une erreur, c'est pas ça que j'ai besoin là. J'ai d'autres choses que j'ai besoin là. » On est en train de dire à Dieu, tu t'es trompé dans tes plans. Quelle folie qu'on est! On est capable de folie incroyable. Hein? Et rempli d'amour aussi, on est porté à questionner l'amour de Dieu, quand il nous arrive des affaires dans lesquelles on souffre, dans lesquelles on est mal. Mais là, Seigneur, tu m'aimes plus, tu permets que ces choses-là arrivent. Et là, il t'aime plus que jamais. Il est en train de te chauffer à blanc. Il est en train d'enlever les scories. On parle souvent de l'image des scories dans les Écritures, quand l'or, on parle de l'or, hein? De l'or, il faut que tu chauffes. Quand tu envoies de la chaleur, là, tout ce qui n'est pas bon, il monte à la surface, puis là, tu peux l'enlever. Puis là, plus tu fais ça, plus ton or est pur. Alors, nos vies ont besoin d'être sanctifiées, puis pour être sanctifiées, on a besoin d'être chauffées. Y a-t-il quelque chose de meilleur qu'une épreuve? Il faut nous chauffer. Ça nous chauffe pas mal. Et dans le verset 7, il veut lui rappeler un autre fait, qu'il n'a pas l'âge et la perspective des anges. Quand il dit dans le verset 7, on le reprend, « Alors que les étoiles du matin, beaucoup d'auteurs pensent qu'ici on fait référence aux anges qui étaient présents, Dieu a permis que les anges voient comment Dieu a créé tout cela. Les étoiles, les planètes, les constellations, la terre, les nuages, la terre, les animaux, et qu'est-ce que ça a provoqué chez les anges qui sont plus intelligents que nous, plus puissants que nous et plus anciens que nous? Ça dit, alors que les étoiles du matin, et il utilise un mot fort, éclataient en chants d'allégresse. L'allégresse, c'est une joie qui déborde dans laquelle on s'exprime en sautillant. C'est l'allégresse, c'est vraiment... Et les anges éclataient et chantaient en harmonie devant la beauté, devant la manière majestueuse dont le Seigneur créait tout cela. Il dit, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. J'imagine la scène, tu parles, je ne sais pas combien il y en a d'anges, parce que je me souviens qu'on avait déjà vu dans Daniel, je pense qu'on parlait de 200 millions. Si, là, j'avance pas ça comme un dogme, là. Mais je me souviens qu'on a déjà vu dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, d'une façon particulière, où on parlait du nombre des anges. Je sais que c'est plusieurs centaines de millions. Imaginez-vous 200 millions d'anges qui observaient comment Dieu travaillait pour mettre tout cela en place. Et qu'est-ce que ça créait? Des chansons. Des cris de joie. Ça devait être... Il devait voir les choses. Alors, il faut voir ces choses-là. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer à Job? Premièrement, tu n'étais pas là. Puis deuxièmement, des êtres beaucoup bien plus intelligents, puis bien plus anciens, puis bien plus observateurs que toi. Eux l'ont vu, puis se sont réjouis. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, toi? Complète ma phrase. Et je pense qu'ils n'ont pas été capables de rien dire. Et après ça, il arrive avec la mère. concernant la mer. Il dit dans le verset 8 à 11, « Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? » Alors, il vient utiliser la mer et il en parle comme si c'était un bébé. Mais venu où la mer? Si on prend tout l'ensemble des océans de la Terre, c'est une grosse affaire pour nous. Lui, il dit, « Quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée, tout l'ensemble des nuages, son vêtement, et de l'obscurité, ses langes, ses couches, des couches. » Il est en train de parler de l'océan, puis il dit qu'il a pris les nuages, c'est le langage poétique, bien entendu. Il parle de l'ensemble de ce qu'il y avait au-dessus, et il parle aussi de l'obscurité. Ça a été comme si Dieu, ce gros monstre-là des ensembles des océans, c'était des langes, c'était comme des couches, c'est comme si c'était ses couches. Et là, après ça, dans le verset 10, il lui dit quelque chose. « Quand je lui imposai ma loi. » Dieu n'a pas laissé les océans et la mer se comporter de n'importe quelle façon. Ce qui est intéressant, c'est que, semble-t-il que dans certains endroits de la terre, le niveau de la mer est plus haut que la terre. Alors, si vous prenez de l'eau, puis ça c'est, disons, puis je mets de l'eau ici, elle va faire quoi l'eau? Elle va tomber là. Mais si l'eau des océans est à certains endroits plus élevée que le niveau de la Terre, qu'est-ce qui devrait arriver? Une inondation. Et c'est pour ça qu'il dit ici, « Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Dieu est en train de dire à Job, je commande aux éléments. Ça aussi, ça devait être quelque chose qui devait le remettre un petit peu à sa place. Alors, la mer, elle trouve sa source dans la volonté divine et en est prisonnière de la volonté divine. Dans beaucoup de mythologies païennes, en particulier à Babylone, l'océan primitif est considéré comme un adversaire du Dieu créateur, lequel doit d'abord le dompter avant de pouvoir entreprendre son œuvre. Ici, rien de semblable. La mer n'est pas représentée comme un monstre, mais comparée à un petit bébé qui vient de naître et dont le Dieu souverain prend soin. La mer est prisonnière de la volonté divine. Elle n'a pas toujours existé. La mer a pris la place que Dieu lui a décrétée. Ça a un enseignement un peu sur le pouvoir restreignant de l'Éternel dans la nature et aussi dans nos propres vies. Jérémie, chapitre 5, verset 22, le Seigneur dit, « Ne me craignez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. » Imaginez-vous la pesanteur de ces affaires-là. Quand on a, comme les tsunamis, on a une idée de la puissance de ces affaires-là. Quand il arrive un mouvement et que ça rentre d'un continent, là, on voit les maisons qui s'en vont. On a vu une fois au Japon, les maisons et les autos s'en vont comme des petits blocs de... C'est puissant l'eau, là. Dieu dit, je lui ai donné une loi, il n'y aura pas plus loin que ce que je lui ai dit de faire. Alors, la manière dont Dieu restreint les limites de la mer a sa contrepartie dans les bornes qu'il assigne au débordement du mal sur terre. Pensez-vous que quelqu'un qui veut vous faire du mal peut aller au-delà de ce que le Seigneur permet? Non. Le Seigneur... Il ne permettra pas que quelqu'un nous fasse plus de mal que qu'est-ce que lui permet. Pour ça, quand quelqu'un vient vous menacer de quoi que ce soit, va te donner une taxe à gueule si tu n'arrêtes pas de prêcher, tu n'as pas d'affaire à t'énerver. Tu dis, il ne me fera pas plus que le Seigneur permet qu'il arrive. S'il permet que tu n'aies une taxe à gueule, tu vas dire, non, oui. Mais il va il va contrôler, il va restreindre, le pouvoir restreignant. Comment qu'on le voit de fois dans le livre de la Genèse, par exemple, il dit, j'ai pas permis que tu la touchasses. Il aurait pu permettre qu'il la touche, la femme. Non, il dit, j'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, on va aller dans les versets 12 à 15 concernant la lumière. Donc, on a dit concernant la création, il pose des questions sur la création, il lui pose des questions sur la mer, et il va lui poser aussi des questions sur la lumière, versets 12 à 15. Il dit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? » Imaginez-vous quelqu'un qui est rendu, disons, 4h30 du matin, il sort sur sa galerie et il dit, « Matin! » Lève-toi, je veux voir le soleil, je suis tanné de le voir, les ténèbres. Et c'est ça qu'il lui pose comme question. As-tu déjà commandé au matin? Il y a quelque chose pour mettre un gars à sa place. Hein? Après ça, il dit, as-tu montré sa place à l'aurore? Après ça, il dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués, pour que la terre transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière, et que le bras qui se lève soit brisé. » J'ai regardé les versets, et je vois que le Seigneur, à partir du verset 12 au verset 15, il nous enseigne quatre choses. La première, la bonté, la sagesse et la puissance divine sont manifestées dans le phénomène régulier de succession du jour et de la nuit. C'est un pouvoir exclusivement divin. Moi, le même matin, on va être à Saint-Jérôme, puis je ne sais pas quelle heure qu'il se lève maintenant, là, parce que je n'ai pas remarqué, là, mais je n'ai pas besoin de me poser une question si demain matin le soleil va se lever, la succession des jours et des nuits. Un pouvoir exclusivement divin. C'est ça qu'il est en train de vouloir montrer à Job. As-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà dit quand est-ce au soleil de se coucher? Donc, la bonté, la sagesse et la puissance divine sont manifestées dans le phénomène régulier de la succession du jour et de la nuit. Je n'ai pas besoin de me poser de questions non plus pour ce soir. On va arriver vers 8h30, puis à peu près une heure plus tard, au top, le soir va arriver. Et ça, c'est un phénomène qui est divin. C'est Dieu qui contrôle ces choses-là. Deuxième chose qu'on apprend des versets 12 à 15, l'homme n'a aucun pouvoir sur ces choses et illustre bien son impotence et sa faiblesse. Comment je m'asseyerais, s'il y a du monde qui me verrait m'asseyer à faire ça, il dirait, mais ma foi, il est rendu complètement ma boule, il essaie de commander au matin, il essaie de commander quand est-ce que le soleil se couche. C'est hors de notre portée. Troisième chose que le Seigneur nous enseigne dans ces versets-là, Dieu se sert de la lumière pour restreindre le mal. Les péchés, on le sait, ont tendance à se commettre dans les ténèbres. C'est un instrument divin dans son gouvernement moral. Avez-vous déjà remarqué ça, que beaucoup de mal se fait dans la nuit et que même le mal qui se fait dans le jour se fait aussi dans ce qu'on pourrait appeler la nuit du secret? Le mal, il se fait toujours dans le secret, dans les ténèbres. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici pour que les méchants ne soient point secoués? Il parle de l'influence, il dit que les méchants, verset 15, pour que les méchants soient privés de leur lumière. Autrement dit, l'Éternel se sert de l'apparition et de la succession du jour et de la nuit pour restreindre le mal. Parce que s'il ferait noir continuellement, il y aurait beaucoup plus de mal sur terre. Ça, c'est sûr, certain. Parce que les gens, quand ils volent, ils vont-tu voler le jour? Mais non, ils volent le soir. Puis s'il y a une lumière, ils vont prendre un bâton puis ils vont en casser. Ils n'aiment pas la lumière. Alors, Dieu dit qu'il donne la lumière dans un but de restreindre tout cela. C'est un instrument divin dans son gouvernement moral. Et quatrième chose, chaque matin est une fête, puisque chaque matin est habillé différemment chaque jour. Ça ici, c'est vraiment de la poésie. On a des poètes dans la classe, dans la salle, j'en connais un, au moins un. On parle de l'habillement du jour qui se lève. Remarquez le jour où regardez les couchers de soleil. Il n'y en a jamais un pareil. On dirait qu'il s'habille de façon différente, le degré de lumière varie, les nuages, la clarté, il y a plein de choses. Alors, chaque matin, c'est une fête parce que chaque matin est habillé de façon différente. L'intensité de la lumière, la présence des nuages, les innombrables conditions météorologiques. Je peux me lever un matin, il pleut, il est clair. Le lendemain matin, le ciel est bleu. C'est une source d'émerveillement presque infinie. Ben, commencez à examiner les couchers de soleil. Si vous avez un endroit où vous pouvez voir les couchers de soleil, si... ou bien non, juste examiner le mouvement des nuages. Une fois que tu t'arrêtes, là, tu te couches à terre, tu te dos, puis tu regardes comment ça bouge, tout ça. C'est-tu merveilleux? Alors, chaque matin est une source intarissable d'observations admirables et incroyablement variées. Quand je vous avais dit que fort probablement qu'on ferait deux leçons, on va en faire deux leçons parce que je suis juste rendu au verset 15 puis on a une heure de fête. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va faire une révision très rapide de ce qu'on a vu aujourd'hui et on va poursuivre jusqu'à 38-41, la manière dont Dieu parle.